Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le melon français est à seulement 1,49€ la pièce. À ce prix-là, naturellement sucré et rafraîchissant, le melon est le fruit de l'apéro. C'est ça le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 1,49€, le melon charentais jaune. Origine France, calibre 750, 975 grammes. Catégorie 1, valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Rémi Barret.
Bonjour à tous, bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, comme tous les jours. Midi, 14h aujourd'hui, Pascal Tour de France, forcément une étape qui va passer par la Savoie et par l'Ain, ça sera intégral tour à partir de 14h, mais nous sommes là donc dès maintenant jusqu'à intégral tour. Autour de moi aujourd'hui, il y a Paul Lassène, journaliste RMC, salut Paul.
Salut Rémi, bonjour à tous.
En pleine forme, Frédéric Hermel, journaliste RMC, salut Fred.
En pleine forme aussi, bah oui. Faire le Tour de France.
Parfait.
Bonjour Rémi, bonjour tout le monde.
Salut Fred. Et Élise Goldfarb, entrepreneur, militante féministe, salut Élise.
Salut.
Et puis, il y a Robert Sebag également, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière. Salut Robert.
Bonjour et bonjour à toutes et tous, et en pleine forme aussi.
Voilà. Bon, ça va alors. Allez, on va parler dans un instant du front anti-RN. Est-on en train de voler le vote des électeurs? Vous nous appelez au 32-16 à 12h30. Jordan Bardella à Matignon. C'est pas encore fait, loin de là. Mais dans cette hypothèse, serait-il à la hauteur? À 13h, pollution, panne, coût. La voiture électrique est-elle une aberration? Et puis à 13h30, le meilleur du jour sur RMC avec le zapping. Ce sera même plutôt vers 13h45. Et on joue, Paul, aujourd'hui.
Oui, cette semaine, RMC vous envoie en Allemagne pour assister aux demi-finales de l'Euro 2024. Et on vous propose bien évidemment de vivre l'expérience RMC, le voyage à Munich, le vol, l'hôtel, la rencontre avec les équipes de RMC présentes sur place, bien sûr. Vos deux places pour la demi-finale du 9 juillet à 21h. C'est simple, Rémi, dès que vous entendez cette alerte à l'antenne, vous avez 5 minutes pour envoyer Euro au 7-32-16, Euro au 7-32-16.
RMC, Estelle Midi.
La coalition du jour. Face aux résultats obtenus par le RN au premier tour des législatives, plus de 200 candidats se sont d'ores et déjà désistés pour tenter de faire barrage à ce RN. La patronne des écologistes, Marine Tondelier, se dit même ouverte à l'idée d'une coalition avec certains au centre et à droite, Paul.
Oui, et ce matin, même son de cloche du côté de l'exécutif. Gabriel Attal le confirme, il faut tout faire pour que l'extrême droite ne dispose pas d'une majorité absolue. Alors, même si le Premier ministre le dit, il n'a rien à voir avec la France insoumise. Il défend le nouveau Front populaire et revendique clairement un front républicain anti-Rassemblement national. Voilà ce que dit Gabriel Attal. Aujourd'hui, LFI n'est pas en situation d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée et de gouverner le pays. En revanche, l'extrême droite, le RN, est en situation de l'avoir et de gouverner. Alors qu'il ne parlait que d'une Assemblée pluriel, dimanche soir, le futur ex-premier ministre est maintenant très clair, c'est tout sauf le RN. Ouverture à gauche, donc tu l'as dit avec Marine Tondelier, Rémi. Ouverture de l'actuelle majorité présidentielle, donc. Et même à droite, des portes semblent s'ouvrir ce matin sur RMC. Xavier Bertrand ne fermait pas totalement la porte à un gouvernement de coalition. Et du côté de l'Élysée, on semble se préparer à ce scénario. D'après nos confrères de France Info, du côté de la rue du Faubourg Saint-Honoré, on réfléchit déjà à un gouvernement d'union tourné vers la gauche avec deux têtes imaginées comme Premier ministre, les socialistes Valérie Rabault et Boris Vallaud.
Un front anti-RN, large, très large peut-être. Est-on en train de voler le vote des électeurs? Vous nous appelez au 32-16. Fred, on l'appellera comme on veut, cette hypothèse au pouvoir, c'est-à-dire à Matignon, d'un gouvernement de coalition nationale ou d'union nationale. En tout cas, l'ennemi clairement affiché, c'est le RN. Moi, je pense à ces 11 millions de Français qui sont prononcés au premier tour pour le RN, en tout cas qui ont voté RN. Est-ce qu'on est en train de voler le vote des électeurs?
On peut légitimement se poser la question. Je pense que dans la morale démocratique, je ne sais pas si ça existe, la morale démocratique, alors c'est peut-être un mot, enfin une expression que je viens d'inventer, mais dans la morale démocratique, il y a questionnement quand même.
Il y a un pragmatisme politique.
Oui, mais quand je vois les alliances des carpes et des lapins mixomatosés, c'est parce que là, j'entends. Mais Marine Tondelier, mais ils vont faire comment sur le nucléaire? Ils ne sont pas d'accord. Ils vont faire comment sur la abaya? Ils ne sont pas d'accord.
Non, mais il y a pas de sujet. Le RN, c'est pas qu'ils sont pas d'accord, ils sont pas d'accord.
Ah non, s'il te plaît.
Vas-y, Fred.
Non, je veux dire, là, on est sur quand même des points de vue qui sont radicalement opposés. Je veux dire, il y a quand même des gens qui avaient l'outrecuidance de dire que Emmanuel Macron, président légalement, légitimement élu, était un dictateur. Enfin, je veux dire, et ces gens-là, maintenant, travaillent ensemble contre 11 millions de Français. C'est pas simplement contre le Rassemblement National. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière l'immense succès du RN, il y a des citoyens qui ont librement décidé de voter pour ce parti qui est légal. Alors, on peut se poser la question de savoir si le RN doit être légal ou pas. S'ils considèrent que le RN n'est pas fréquentable, eh ben qu'ils l'interdisent. C'est tout. Si le RN est un danger pour la démocratie, qu'ils interdisent ce parti dangereux pour la démocratie. Mais ils l'ont pas fait parce qu'il n'y a pas raison de le faire. Donc, ça me paraît dingue d'avoir toujours le mot démocratie à la bouche et de ne pas accepter le résultat des urnes. De toute façon, je pense que dimanche, il peut y avoir une surprise, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens la plupart des gens ne vont pas suivre les recommandations.
Tu penses que ça peut avoir l'effet contraire ?
Ah oui. Ah oui, parce que
C'est-à-dire que, ces alliances contre nature, oui, comme tu le dis, certains électeurs, je sais pas, des électeurs LR, pourraient décider de voter
sûr,
LR.
Mais bien sûr, LR, canal historique, est quand même plus proche des idées sur l'immigration, sur, par exemple, voilà, ou sur la sécurité, d'un électeur RN que d'un insoumis. Enfin voilà. Et moi j'écoutais, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Baptiste Moreau, qui a été un proche de Macron, qui a été un député de la première législature de Macron, député de la Creuse, il était, et je l'entendais hier sur BFM TV, et il expliquait que c'était du n'importe quoi de faire ça, parce que lui, qui est un homme de terrain, c'est un agriculteur, etc., il dit, les gens, c'est en train de provoquer l'excès contraire, parce qu'on est en train de leur voler cette élection. Donc oui, ouais. c'est l'affichage presque un peu outrancier d'accord comme ça, où ils se jettent dans les bras de l'un de l'autre, ça risque de provoquer l'excès contraire.
Rémi, il y a quelques années, il y avait une publicité, une affaire, c'était « La pile vendaire ne s'use que si l'on s'en sert ».
Ouais.
Le Front Républicain, on s'en est servi à plusieurs reprises, et au bout d'un moment, ça ne marche plus. Les gens essayaient, en 2017, même avant,
2002,
en 2002 avec Chirac et Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, on s'en est resservi en 2017, en 2022, au bout d'un moment, les gens ont dit, attendez, il sert à quoi notre vote? C'est ça. Moi, il y a un problème de respect. Et la notion de respect me paraît extrêmement importante.
Certains vont même jusqu'à faire le parallèle avec la Constitution européenne et le référendum.
On n'a pas respecté.
Qui a été volé aux Français.
En 2005, il y a eu un référendum. On n'a pas respecté ma décision. Donc ça commence à faire beaucoup. Et comment vous voulez que les gens comprennent, hein, avec les désistements? J'ai regardé deux cas, ou trois cas même. Avignon, il y a M. Raphaël Arnaud qui se présente pour la France insoumise. Il est mis en examen, il a insulté, il est accusé d'un certain nombre de choses.
François Fichet.
La maire d'Avignon décide de le soutenir au deuxième tour. Autre, l'inverse, si vous voulez. Est-ce que la LFI va vraiment voter pour Elisabeth Borne dans le Calvados? Alors qu'ils ont manifesté, pendant des semaines et pendant des mois. Elle a fait 43.
Ils l'ont accusé notamment de déni de démocratie.
Ça, c'est ça. David Guiraud, on va soutenir, certains soutiennent David Guiraud de la France Insoumise. Donc, quelque part, moi, je pense qu'il peut y avoir un effet inverse, parce que d'abord, les gens ne respectent plus. Je veux dire, ils ont leur opinion, quelle que soit. Alors là, on est d'accord ou pas d'accord, mais le respect des électeurs. Ils ont voté ça, on n'est pas d'accord, ben, eux, ils l'ont voté.
Front anti-RN, est-on en train de voler le vote des électeurs? Vous nous appelez au 32-16. Élise.
Bon, moi, vous vous doutez bien que je suis pas d'accord avec vous. Pour plusieurs raisons. Déjà, est-ce qu'on vole le vote aux Français? Non, vu que toutes les personnes qui votent ensemble, donc Renaissance et autres, et NFP, sont toutes aussi Français. Et on fait, si on les cumule, 40%. Donc
c'est
en réalité...
C'est pour ça qu'on n'a pas dit... La question, c'est pas est-ce qu'on vote le vote, on vole le vote des Français, mais des électeurs?
Bah, en vrai... Non, parce qu'il y a une coalition.
Excuse-moi, Élisa, ouais. je te laisse parler. Évidemment, c'est pour débattre. Mais un électeur, je sais pas moi, un électeur qui a voté, il y en a encore quand même, qui a voté pro-Macron, là, au premier tour des législatives, ouais, qui a voté ensemble. Et là, qui se retrouve, on lui dit, on va peut-être faire un gouvernement de coalition nationale avec des France Insoumise.
Rémi, je me permets
juste
un petit indiscret. Il y avait le dernier conseil des ministres de ce gouvernement qui avait lieu ce matin. Emmanuel Macron a dit, lors de ce conseil, on ne gouvernera pas avec la France insoumise.
Voilà.
Désistement ne vaut pas coalition.
Oui, mais c'est ça que les gens doivent comprendre. C'est ça que les gens doivent comprendre. Merci de me laisser parler parce que là, j'ai hâte de vous écouter. C'est que, en fait, il y a un cas où le RN peut gouverner le pays, donc on les a au pouvoir, et un autre cas où de toute façon, même si, attendez, toutes les semaines, je suis là pour critiquer David Guiraud et pour dire que c'est inadmissible les Raphaël Arnaud et tout ça.
Ce candidat mais LFI qui est fiché.
Dans ces cas, dans ce cas de coalition, LFI ne sera pas au pouvoir et le nouveau.
Vous n'en savez rien, mais ne vous pouvez pas dire ça.
Le nouveau Front populaire n'aura pas
la morale et le cynisme, ça suffit.
Hein, ça, mais c'est pas la morale et le cynisme, si, c'est juste le bon sens.
Comment vous voulez vous associer avec un Raphaël Arnaud?
C'est pas possible. Je ne peux pas non plus m'associer.
Et contre le gouvernement, je viens d'apprendre ce que vient de nous dire Paul aujourd'hui. Il dit on gouvernera pas avec LFI, mais son premier ministre, il dit on fera une coalition très large et peut-être même avec des LFI. Ça suffit.
Oui, mais comment est-ce qu'on peut laisser gouverner le Rassemblement national de la
Mais si les gens l'ont choisi, c'est pas ma tasse de thé, loin de là, mais les gens l'ont choisi. C'est triste. Si je suis pas content, je me barre.
11 millions de Français, c'est pas la France. Excusez-moi, on est 70 millions.
Mais
on est
la démocratie, c'est une majorité.
Il y a exactement, on est en démocratie, et il y a tout autant 11 millions de Français qui sont victimes du RN. Donc, en fait, par exemple, si on dit 11 millions de Français, si on calcule à peu près combien il y a de musulmans, combien il y a de juifs en France, on peut vite
monter. Il y a une trentaine de millions d'électeurs, il y a 38, je crois que c'est aujourd'hui, c'est 11 millions sur une.
Malheureusement, c'est pas tellement le Front National, il est plus.
Robert, s'il te plaît, Robert.
Ben, moi, je pense que c'est un mélange des deux.
S'il te plaît.
C'est trop important.
C'est un mélange des deux.
Je suis d'accord, mais c'est important aussi ce que je te dis.
Je pense que LFI comme le RN sont dangereux pour les juifs notamment. Ça, j'ai jamais dit le contraire. Et pour moi, LFI a un problème d'antisémitisme qui est catastrophique, cataclysmique. Et personnellement, en tant que juive, ça me fracasse, j'ai pas de mots, j'ai plus de mots en fait moi depuis le 7 octobre. En revanche, on ne peut pas dire que mettre en avant cette union républicaine, c'est voler le vote des Français. Parce que aujourd'hui, il y a une urgence qui est de ne pas faire revivre les pires années, les pires heures de notre histoire aux Français.
Allez, on vous pose la question. Front anti-RN, est-on en train de voler le vote des électeurs? On ne le dit pas, on pose la question. Vous nous appelez au 32-16 comme le fait Jérôme. Salut Jérôme.
Bonjour tout le monde.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est en Isère, c'est ça Jérôme?
Oui, absolument, c'est ça.
Bon, vous y croyez à cette... vous réagissez comment à cette idée d'une coalition nationale?
Déjà, moi je trouve que cette histoire de triangulation, là, de se déliter, c'est...
Parlez bien devant votre téléphone, Jérôme, s'il vous plaît. On ne vous entend pas très très bien.
Je trouve que c'est antidémocratique quand même de s'enlever alors qu'on est qualifié. Je trouve que, on me vole mon vote en fait, parce que moi, mon candidat a gagné et il s'enlève alors que du coup, il me laisse le choix entre deux extrêmes et les extrêmes, c'est quelque chose de très dangereux.
Vous aviez voté pour qui?
J'avais voté pour Ensemble.
Oh, la majorité présidentielle.
La majorité présidentielle.
Et il était qualifié.
Il était qualifié, je regardais quand même les points, même s'il serait resté et que les votes blancs et tout auraient voté pour lui, je pense pas qu'il aurait été qualifié non plus.
Et donc là, il se désiste.
Et il se désiste, voilà. Le RN est arrivé deuxième. Alors, c'est le Front Populaire, c'est pas un candidat LFI, c'est un candidat écologiste.
Ouais.
Mais il est arrivé premier. Mais voilà, quoi, je comprends pas cette histoire de se qualifier. Et de se retirer du c'est comme si l'équipe de France était qualifiée en demi et se disait bah non en fait on veut pas jouer le match quoi.
On a un peu l'impression d'avoir à faire une VAR de la politique. But est annulé. Mais ce que dit Jérôme,
ce que dit Jérôme est intéressant parce qu'on dit est-ce qu'on a voté le vote des électeurs du Rassemblement National. Mais quand j'écoute Jérôme, il a l'impression qu'on lui a volé son vote aussi à lui.
C'est pour ça encore fois
pour tous les partis.
C'est pour ça qu'encore une fois, pour vous donner un peu les coulisses de notre travail le matin, quand on a réfléchi à ce sujet, notamment avec Paul, on s'est dit ce matin, est-ce qu'on vole le vote des Français? Non, parce que c'est pas les Français. Est-ce qu'on vote le vote des électeurs RN? Sauf que il y a pas qu'eux qui peuvent ressentir, en tout cas à tort ou à raison, ce sentiment d'être dépossédé. Il y a aussi des électeurs, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, comme Jérôme, qui a voté pour la majorité présidentielle, qui se dit maintenant je vais me retrouver avec un candidat nouveau Front Populaire.
En gros, mon vote n'a servi à rien.
Oui, mais moi, si je me retrouvais dans une circonscription où mon candidat Ensemble, imaginons si j'avais voté pour Ensemble, était remplacé par un candidat NFP, mais pas de LFI, Bon, je me serais dit, bah, c'est une décision qui a été prise d'un commun accord entre plein de partis politiques. C'est le jeu de la démocratie.
Non, la démocratie, c'est pas ça. La démocratie, c'est de laisser à toi. Attends, je termine la phrase. La démocratie, c'est de laisser à toi, électrice ou électeur, de voter ou pas. Et pour qui?
Oui, mais on est en démocratie représentative, c'est les représentants qui décident comment ils s'organisent.
Ouais, mais d'où on en parlait déjà hier, mais d'où peut-être l'idée, on n'en est pas là. Le fait est qu'on n'en est pas là de proportionnel, de davantage de proportionnel.
Il faudra dimanche soir, Rémi, bien compter le vote blanc.
Ouais.
Je pense qu'il y aura beaucoup de votes blancs.
Oui.
Jérôme, merci d'avoir été avec nous. On était en Isère et on va rejoindre Stéphane. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
On est dans les Bouches du Rhône cette soir.
Oui, bonjour.
Bonjour Stéphane, merci de nous rejoindre sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi. Ce front anti-RN d'une coalition nationale, d'union nationale, on l'appelle comme on veut, vous en pensez quoi?
J'ai l'impression qu'on nous fait le coup à chaque élection en fait.
Ouais,
c'est-à-dire qu'on fait monter le RN, on le fait monter, Chirac, Macron, se retrouver en face de Jean-Marie Le Pen, de Marine Le Pen. Ils ont fait monter le RN dans les sondages. Une fois quand il est monté dans les sondages et qu'il arrive en tête, on nous fait le coup, le Front Républicain, ils sont dangereux, etc. Moi, je ne vote pas pour eux. Moi, je ne vote ni pour l'extrême droite, ni pour l'extrême gauche. Mais moi, dans ma circonscription, le candidat qui est arrivé troisième s'est retiré, un candidat d'extrême gauche, je n'aurais pas voté pour lui. Ça, c'est une certitude.
Okay.
Il me reste à voter pour le candidat de la majorité présidentielle ou pour le candidat du Rassemblement National, sachant que j'ai voté, le candidat pour qui j'ai voté, il ne s'est pas qualifié. On est d'accord?
C'est un candidat de quelle couleur?
Il était centre-droit.
D'accord.
Voilà. Donc, maintenant, il me reste le choix entre Ensemble et le Front National, ou le Rassemblement National maintenant. Eh bien, je vous le dis. Si le candidat d'extrême gauche ne s'était pas désisté, eh bien, je serais allé voter, j'aurais voté blanc. Et bien là, maintenant, vu qu'il s'est désisté, et bien je ne vais même pas aller voter. Ah. Parce que qu'est-ce que ça va faire? On me donne un choix. Il y avait un choix, ils étaient trois. Le troisième, il dit non, j'y vais pas. En Corrèze, M. Hollande, il est premier. Le troisième, il se désiste. Donc en fait, on fait élire M. Hollande. Électeurs de la majorité présidentielle. Ouais. Qui lui ont tapé sur la tête pendant 5 ans. Qui l'ont forcé à ne pas se représenter. Et M. Hollande, il va être élu député. Et il va siéger avec qui? Avec M. Guiraud? Avec Mme Kéké? Il va siéger avec M. Poutou? Et qu'est-ce qu'il a de commun avec ces gens-là? Rien. La seule chose qu'ils ont de commun, c'est un siège à l'Assemblée nationale pour être tranquille et être bien payé. Pendant que les Français, ils en ont marre.
Il faut l'entendre, donc, merci Stéphane.
Le vote pour le Rassemblement national, même si, franchement, je voterai jamais pour eux. Mais j'arrive à comprendre les Français qui votent pour eux.
Stéphane, je vous interromps parce qu'on est pris par le temps, mais c'est très important d'entendre la parole de Stéphane, parce que Stéphane qui nous appelait depuis les Bouches-du-Rhône, parce que ça aussi, il y a un grand nombre d'électeurs qui se sont prononcés au premier tour qui se retrouvent dans la situation de Stéphane aujourd'hui, qui étaient perdus, qui sont perdus aujourd'hui, et qui ne se retrouvent pas dans ce qui se passe à l'heure actuelle.
Moi, je pense que tout le monde est perdu.
Tout le monde non. Un certain nombre d'électeurs ne sont pas perdus. Mais Othman Nasrou est avec nous. Bonjour Othman Nasrou.
Bonjour.
Vous êtes vice-président Les Républicains de la région Île-de-France. Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Othman Nasrou, vous avez vu Marine Tondelier, la patronne des écologistes, ce matin, évoque l'idée d'une coalition nationale anti-RN. Et elle dit pourquoi pas travailler avec certains au centre ou à droite. Elle tend la main. Est-ce que vous saisissez cette main tendue?
Évidemment que non, évidemment que non. Tout cela devient totalement incompréhensible. On a des élus de la majorité présidentielle, le président de la République, qui ont passé leur temps à nous expliquer qu'il fallait faire barrage aux extrêmes, à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Et maintenant, ils sont en train de tendre la main à l'extrême gauche. On n'y comprend plus rien. Et s'ils n'ont pas compris que c'est la meilleure manière d'installer le Rassemblement National comme seule alternative, que de vouloir tout mélanger, comme ils ont fait toutes ces dernières années, avec le en même temps, avec le et droite et gauche, eh bien, ils n'ont rien compris à la colère des les Français qui attendent des réponses sur la sécurité, sur l'immigration, sur la maîtrise de la dépense publique, sur les services publics, sur tous ces sujets-là, on n'est pas d'accord les uns avec les autres. Moi, j'ai toujours été dans l'opposition à Emmanuel Macron et je lui en veux de la situation dans laquelle il nous met. Et quand j'entends maintenant qu'ils veulent gouverner avec une partie de la gauche, que la France insoumise, ce ne serait finalement pas si grave que ça, eh bien, je suis désolé, je crois qu'ils n'ont rien compris et que la majorité présidentielle qui est en train de disparaître l'aura bien cherchée. Et il va falloir tout reconstruire après tout ça, et notamment reconstruire une droite. Moi, je suis fier qu'à droite, avec les Républicains, on soit resté indépendant, voilà, dans notre immense majorité.
Mais haute menace roue. Au risque, je me situe du côté de ce que Marine Tondelier, le Nouveau Front Populaire, Ensemble, pour les LR, Orsiotti, au risque de se retrouver avec une majorité même relative RN.
Mais ce qui va se passer, si on continue comme ça, c'est qu'on va effectivement mener le Rassemblement National au pouvoir à force de vouloir restreindre les choix, à force de vouloir mélanger les contraires. L'addition des contraires ne fait pas une politique. Et on vote maintenant en France uniquement par élimination. C'est ce qui a conduit aujourd'hui à mettre le Rassemblement National aussi haut. On peut continuer, si vous voulez. C'est pas ça qui va faire que le Rassemblement National va reculer. C'est pas ça qui va faire que la France va se relever. Non, il faut faire l'inverse. Moi, je suis attaché à une droite indépendante. Et nous ne donnons pas de consigne de vote. Chacun votera en son âme et conscience. Les électeurs sont libres. Là où il y a des candidats et des républicains courageux qui sont au second tour, eh bien, ce sont les mieux placés pour effectivement à la fois barrer la route aux extrêmes et surtout reconstruire. Et puis, si, là où il n'y en a pas, les électeurs sont libres. Mais de grâce, arrêtons de tout mélanger, arrêtons la confusion. Mmh. C'est ça qui met le pays dans cette situation d'impasse politique qui a été voulue par le président de la République. Et de toute façon, vraisemblablement, cette assemblée va être ingouvernable. Donc il va falloir qu'on reconstruise des offres politiques cohérentes. Et vous l'avez compris, nous à droite, eh bien, je pense qu'on aura eu raison de ne pas rentrer dans ces accords d'arrière-boutique qui ne marchent jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre.
Othman Nasrou, restez avec nous. Robert Sebag,
vous savez quelle peut être l'interprétation de ce qui se passe avec Marine Tondelier et d'autres, Xavier Bertrand aussi, c'est qu'ils imaginent et ils sont persuadés qu'il n'y aura pas de majorité totale pour le RN, mais par contre, il y aura une majorité relative. Et ce qu'ils veulent faire uniquement à très 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 court terme, c'est éviter l'élection d'un président d'Assemblée nationale qui soit du Rassemblement national. Et de dire là, il ne faut pas qu'il y ait un président... Il y aura une majorité relative peut-être pour le RN. Il ne faut pas qu'il y ait un président de l'Assemblée nationale. Ça va avoir lieu le 12 juillet, le vote. Et là, on va tous être d'accord pour éviter qu'il y ait un président de l'Assemblée nationale qui soit issu du Rassemblement national. Et je pense que c'est ce qu'il y a derrière. C'est comme ça qu'il faut peut-être interpréter ces pseudo-ouvertures à très très court terme.
Oui, mais enfin, pas de président de l'Assemblée nationale, mais bonjour pour se mettre d'accord pour que ce soit qui, Mélenchon, le président de l'Assemblée nationale, que ce soit un écologiste, un socialiste, un insoumis, un candidat de macroniste.
Enfin, je pense qu'ils trouveront quelqu'un qui puisse faire effectivement l'unanimité. Et peut-être pourquoi pas François Hollande, parce qu'il y pense sérieusement.
Othman Nasrou, si jamais, malgré tout, cette coalition d'Union nationale se mettait en place, vous seriez donc dans l'opposition?
Moi, il n'y a pas d'union nationale possible avec la France insoumise. Et je pense qu'on est en train d'oublier totalement le danger que représente la France insoumise. Ouais. On n'en parle plus du tout. Je suis quand même stupéfait, encore une fois, de la complaisance, y compris d'un certain nombre de macronistes avec l'extrême gauche qui dénonçait il y a encore quelques jours.
C'est sûr que le discours a sacrément changé en quelques jours. Ouais.
Mais c'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible. Donc je vous le dis, il n'y aura jamais d'union nationale avec ces gens-là, avec des gens dont on pense le contraire, avec les écologistes qui ont un agenda de décroissance, qui ont une rhétorique de lutte d'éclat. Enfin, sérieusement, on veut continuer. Si on veut que le Rassemblement National gagne, on continue comme ça. Moi, je veux un autre chemin pour mon pays. Ça ne passe pas par la compromission et ça ne passe certainement pas par la complaisance avec l'extrême gauche.
Merci, Othman Nasrou, d'avoir été avec nous, vice-président Les Républicains LR de la région Île-de-France.
C'est clair.
Frédéric.
C'est clair. Il faut préciser.
C'est la position, il faut le rappeler, ce que nous dit Othman Nasrou, c'est la position officielle, aujourd'hui, des Républicains.
Des Républicains, canal historique.
Canal historique, on va les appeler comme ça.
Pas de ceux qui ont suivi ce titre.
Non,
je parle de ceux qui sont restés fidèles à LR.
Bon. Merci donc Othman Nasrou d'avoir été avec nous. Quelques messages peut-être Paul et puis on le résultat de notre consultation.
Oui, ce message de Titi qui nous dit la France ne sait que pratiquer la politique du castor, faire barrage entre guillemets. Que font les politiques de tous bords entre les élections pour éviter la montée inexorable du RN? Le phénomène n'est pas récent. Et Tony nous dit aucun vol, c'est juste pour sauver notre République que les partis se mettent d'accord.
Front anti-RN, est-on en train de voler le vote des électeurs ?
Eh bien, pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, c'est un grand oui, puisqu'ils répondent donc oui pour 84% d'entre eux.
Bon, bah, ça fasse peut-être réfléchir dans certains états-majors. Dans un instant,
et ce sont les électeurs. Hein.
Ouais, dans un instant, la suite d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Jordan Bardella, potentiel Premier ministre, serait-il à la hauteur ? Vous nous appelez au 32-16, c'est dans un instant sur RMC, RMC Story.
RMC, midi 14h, Estelle Midi,
Rémi Barret.
La suite d'Estelle Midi, midi 14h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT, le CV du jour. Le CV de Jordan Bardella, potentiel Premier ministre à l'issue du second tour des législatives de dimanche. Et certains émettent des doutes sur son parcours. C'est le cas notamment de Xavier Bertrand. Il était l'invité ce matin d'Apolline de Malherbe dans Apolline Matin.
Ce sont des menteurs, ce sont des pipoteurs, ce sont des charlots Rassemblement National. Vous voyez l'état du pays. 7e puissance mondiale. Un pays où il y a une dette comme c'est pas possible, des failles comme c'est pas possible. Et pardonnez-moi. Et on va dire, un jeune homme de 28 ans qui a peut-être du talent parce qu'il est bien peigné, parce qu'il a un beau costume, parce qu'on l'a bien formaté, c'est lui qui va diriger notre pays sans expérience. Et un jeune à la tête de l'État, on a déjà essayé. Hein. On a payé pour voir, on a vu ce que ça donnait. Un
vous
peu d'expérience.
Faites référence à qui ? Au président ?
Mais bien sûr, l'expérience, ça compte.
C'est ce qu'on appelle se faire rhabiller pour l'hiver. Ouais. Le talent de Jordan Bardella, d'après Xavier Bertrand, c'est notamment d'être bien peigné. Mais le canard enchaîné, Paul, s'interroge également sur le parcours de Jordan Bardella ce matin.
Oui, nos confrères sont allés fouiller dans les archives de l'université de la Sorbonne et ont retrouvé les bulletins de notes de Jordan Bardella. Et c'est le canard qui le dit en ces termes. Il faisait partie des cancres. Après un bac économique et social et une mention très bien au lycée privé Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Saint-Denis, Jordan Bardella tente le concours d'entrée à Sciences Po qu'il ne réussit pas. C'est alors qu'il décide de se tourner vers une double licence géographie et histoire et espagnol. Mais ses résultats ne sont pas très bons. 5 sur 20 en moyenne la première année. Il décide donc de se concentrer uniquement sur la géographie. Il valide cette première année au rattrapage grâce notamment à un étonnant 17,5 sur 20 en aïkido. Hein, on ne le savait pas. Mais son niveau ne s'améliore pas par la suite. En deuxième année de fac, il obtient une majorité de 0 pointé. Et en fin de troisième année, au sixième semestre, il obtient une note globale de 1,8 sur 20. C'est à ce moment-là, en 2016, qu'il grimpe les échelons au sein du parti du Rassemblement National et finit par décrocher un poste à mi-temps auprès du trésorier.
Jordan Bardella à Matignon, serait-il à la hauteur ? Vous nous appelez au 32-16, Fred, tu y crois ?
Alors, moi, je ne peux le juger que sur... Je vais commencer par autre chose. Mmh. Le mépris, il y avait un Premier ministre de la France qui s'est malheureusement suicidé.
Pierre Bérégovoy.
Que j'aimais beaucoup, Pierre Bérégovoy, qui a subi ce mépris.
Qui n'avait pas le bac.
Parce qu'il n'avait pas le bac, parce que c'était un ouvrier. Il a subi ce mépris, et c'est un grand Premier ministre, c'est un grand politique, un grand homme d'État pour la France. Donc je me méfie toujours quand on méprise les gens sur leurs notes. Puis, attendez, on est allé à la fac, quand t'as des notes comme ça, zéro, c'est parce que t'es pas allé aux examens, en fait. Que t'as 0-0-0, c'est parce que t'es pas allé aux examens. Mmh. C'est tout, voilà, parce qu'il était déjà militant, il s'était investi dans le militantisme. Enfin, donc,
Sauf que c'est difficile de comparer le parcours de Pierre Bérégovoy. Pierre Bérégovoy, quand il est devenu Premier ministre, voilà. il avait déjà un parcours politique, il a appris, mais moi je parle du mépris
par rapport à l'école.
Ah,
tu vois ce que je veux dire? Parce que Pierre, on n'a pas évolué depuis Pierre Bérégovoy.
Ok.
Et donc j'aime pas trop ce mépris de classe là à ce niveau-là. Après Jordan Bardella, je ne peux pas le juger sur ce qu'il a fait comme Premier ministre, ce qui n'a jamais été comme Premier ministre. Je ne peux le juger que sur son métier actuel, qui est chef de parti. Bah, chef de parti, il a conduit. Les deux dernières élections, une victoire immense pour son parti, c'est-à-dire victoire historique aux européennes, victoire historique au premier tour des législatives. Donc, je ne sais pas s'il sera un bon Premier ministre. C'est vrai que c'est un peu jeune, je reconnais. C'est vraiment très jeune. Donc, mais bon, après, un Premier ministre, c'est aussi quelqu'un qui sait s'entourer. Un dirigeant politique, c'est quelqu'un qui sait s'entourer. S'il a autour de lui des conseillers de très haut niveau, parce qu'il y a un président très intelligent, très fort, qui a des conseillers qui lui ont peut-être conseiller de dissoudre l'Assemblée. On voit dans le bordel dans lequel on est. Donc voilà, jeune, oui, ça peut être un problème. Inexpérimenté, ça peut être un problème. Mais s'il est intelligent et qu'il sait s'entourer, pourquoi pas ?
Élise ?
Non, il n'est pas prêt. Enfin, déjà, il a 28 ans. Et moi, je suis la Jones de cette émission. Et je trouve que c'est trop jeune, 28 ans.
T'as quel âge, Élise ?
30 ans. Au-delà de ça... Il est incapable de répondre sur une seule question concernant l'écologie. Il est incapable d'avoir la logique. C'est-à-dire le mec à mon âge, ok ? Il est pas capable, quand on lui demande sur l'exonération d'impôts pour les moins de 30 ans, donc ça veut dire que Mbappé ou qu'un trader, il paiera pas d'impôts. Il a même pas la logique de te dire non, j'avoue, c'est un peu poussé. C'est, il réfléchit même pas. Le mec, il est député européen depuis 5 ans. Là où tous les autres députés européens ont déposé des milliers d'amendements, ouais. Parce que c'est ça, tous les jours t'es au Parlement européen et tu te bats pour ton pays, tu te bats pour l'Europe. 3 amendements il a déposé en 5 ans contre des milliers pour n'importe quel autre député. La honte, il fout rien. Ensuite, sur tout ce qui est social, il n'est pas là. Et autre question, un truc qui me sidère, le mec est pas capable de débattre avec une femme. C'est-à-dire qu'il a dit non pour débattre avec Tondelier. Il veut débattre avec Jean-Luc Mélenchon.
C'est pas forcément contre une femme.
Mais est-ce qu'il a peur des femmes? Je l'ai jamais vu parler de
femmes. Mais non, parce que c'est la logique.
Vous l'avez déjà vu débattre avec une femme?
Il veut débattre avec Mélenchon parce que c'est faire peur. Il faut faire peur aux électeurs en disant.
Mais Mélenchon n'est même pas éligible. Il n'est même pas candidat.
Oui, mais non, mais tu comprends.
Est-ce que vous avez déjà vu Jordan Bardella discuter avec une femme?
Tondelier n'est pas à son niveau, c'est ce qui est
pensé. Attends, Robert.
Tondelier, je suis désolé de le dire, je suis pas particulièrement fan de son parti. Tondelier, depuis au moins une semaine, est excellente dans les médias. Mmh. Elle a montré qu'elle avait totalement les capacités de débattre.
5% européen.
Ouais, voilà.
D'accord, ouais. Mais juste, c'est une femme. On est dans donc, une il ne veut pas débattre avec elle.
Ouais. Mais son parti a fait ça.
Mais il aurait accepté de débattre avec Éric Zemmour qui a fait 0,5%. Robert, donc, en fait, c'est pas ça la question.
Alors, quand Robert, le sage, et je ne dis pas le plus âgé, le sage de cette assemblée.
Quand on se pose la question, ça me paraît tout à fait légitime. Mmh. Et moi, en voyant un petit peu le thème de ce débat, j'ai fait un parallèle avec les États-Unis. Aux États-Unis aujourd'hui, le débat, c'est l'âge, mais l'âge, si on se pose la question, est-ce que M. Biden, au-delà de 80 ans, et M. Trump à 78 ans, est-ce qu'ils sont capables? Et le débat, il est là. Est-ce qu'on a les capacités à cet âge-là, cognitives, de mémoire, etc., de pouvoir conduire un pays? Et nous, chez nous, c'est l'inverse. On a un premier ministre qui a 34 ans. Et
ils sont en couche-culotte.
Voilà, actuel. Et on a un prétendant à Matignon qui a 28 ans.
Bon, il serait à la hauteur ou pas?
Voilà. La question, moi, je suis comme Fred. Je pense qu'aller chercher ses notes, les autodidactes, ça existe. Les autodidactes, ça existe. Mais c'est vrai qu'il n'a pas eu un sens de la réalité de ce qu'est la vie à 28 ans. Toute sa carrière, elle a été politique, dans des partis politiques. Il a jamais vraiment travaillé en industrie, dans une usine, peu importe.
Comme la plupart des politiques, mon ami.
Non, mais d'accord, mais ils ont un tout petit peu de bouteille. Ils ont été élus, ils ont fait des campagnes. Les seules campagnes qu'il a faites, c'est à la proportionnelle, c'est au niveau européen. Et c'est vrai qu'il n'a pas été très très productif en termes d'amendements au Parlement européen. Donc on verra, mais si les Français le savent, il faut leur donner. S'ils décident de les lire, puis on verra bien.
Élise, une info, enfin quand même, Jordan Bardella refuse pas de débattre avec les femmes. Il avait débattu avec Valérie Ayé dans le cadre des européennes le 3 mai dernier. Donc
juste pour aller dans le sens de ce que dit Élise, il y a eu 4 débats.
Voilà.
Depuis le début de la campagne des législatives, dans ces 4 débats entre
que des hommes.
Il y a eu que des hommes. Aucune femme n'a débattu depuis le début des élections.
Est-ce que c'est Jordan Bardella qui a exigé qu'il n'y ait pas de femmes?
Là, en l'occurrence, il a dit non. Et il va y avoir un débat sur BFM TV.
Parce que c'est Marine Tondelier, les écologistes.
Oui, mais là, regarde. Excuse-moi, Rémi. Il ne va pas débattre avec Marine Tondelier sur BFM.
On va au 32.
Elle sera là, mais ils vont passer chacun leur tour. Donc c'est honteux, en fait.
Rodolphe est avec nous. Bonjour, Rodolphe.
Bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre sur RMC, RMC Story. On est dans le Morbihan, Rodolphe.
C'est ça, tout à fait.
Bon, si Jordan Bardella accédait à Matignon, est-ce qu'il serait à la hauteur selon vous?
Bah, bien sûr, pourquoi pas. Pour répondre à la question et puis surtout à votre chroniqueuse, c'est Élise, ça?
Oui, Élise, oui, tout à fait.
Vous pensez que pendant 7 ans, on a été gouverné par des pros et par des compétents? Vous pensez que à l'intérieur, M. Darmanin est compétent quand on voit les chiffres catastrophiques? Vous pensez qu'à l'éducation nationale, les professeurs sont contents? Non, mais attendez, je vous parle de compétences, en termes de compétences, Premier ministre ou pas Premier ministre. Si on est compétent, on l'est.
Aujourd'hui, Olivier Véran était médecin, ministre de la Santé, Dupond-Moretti, avocat, garde des Sceaux. Comment?
Vous pensez que le Covid, il a été bien géré? Par Madame Buzyn?
Excuse-moi, oui.
Ah bon? Bah écoutez, visiblement.
La France a été un des pays.
C'est pas ce que les hôpitaux pensent, en tout cas, vous voyez. Les hôpitaux, ça fait longtemps qu'ils sont à la rue et personne.
Je pense qu'en Algérie, ils n'auraient pas dit ça à la France.
Non mais madame, moi je vous mets juste face à vos contradictions. C'est juste, voilà. Laissons, la question elle se pose tout le temps quand c'est le RN. Mais est-ce qu'elle s'est posée quand Monsieur Attal est arrivé Premier ministre?
Oui. Est-ce qu'on... Si,
bah,
si,
non.
Si, si.
Bah, pas,
si, si.
Non. Non, non, on a tout le monde.
Certains ont dit qu'il était très jeune, qu'il manquait d'expérience.
Il a 35 ans. Élise,
s'il te plaît.
Mais dans le même temps,
ouais,
on a entendu l'autre discours qui disait, bah, mais il est jeune, mais c'est bien un jeune. À Matignon, ça change. Vous voyez, on a entendu deux discours. Moi, qui étais le premier, d'ailleurs, alors, je vote pas pour le parti présidentiel, mais j'ai quand même dit, bah, tiens, pourquoi pas un jeune, à la limite, c'est pas plus mal d'avoir toujours les barons, des barons politiques, qui ont la bouteille, et qui, finalement, font pas grand chose. Bon, je dis pas, pourquoi pas, après Elisabeth Borne, pourquoi pas? Bon, bah, finalement, est-ce qu'on lui a laissé le temps? On lui a pas laissé le temps. Laissons les choses. Il y a une démocratie en France. Aujourd'hui, la question, elle se pose surtout parce que c'est le RN. Si c'était pas le RN, elle se poserait pas comme ça, la question, vous voyez? C'est ça qui est un peu dérangeant. Moi, j'ai pas toujours, pour tout vous dire, j'ai pas toujours voté RN, j'ai voté LR, j'ai voté un peu. La question, elle se pose surtout parce que c'est Jordan Bardella et parce que ça dérange. Et il a pas refusé de débattre avec Madame Tondelier. C'est aussi la France Insoumise qui pousse à ce que ce soit Mélenchon, impérativement Mélenchon, et Gabriel Attal aussi.
On y est revenu, hein, la France Insoumise de pousser Mélenchon. Je crois qu'il y en a beaucoup qu'à la France Insoumise qui lui demande justement, au contraire, enfin, qu'il pousse vers la sortie, plutôt. Merci Rodolphe d'avoir été avec nous. Rodolphe qui nous appelait depuis le Morbihan. On vous a posé la question. Jordan Bardella à Matignon, est-ce qu'il serait à la hauteur?
Nos auditeurs y croient. Ils répondent oui pour 72% d'entre eux.
Bon, c'est assez clair. À présent, tiens, une plongée dans la France de l'entre-deux-tours de ces législatives. C'est vous qui avait la parole et on va prendre la direction du département de l'Aisne.
RMC, les Français en direct.
Et dans l'Aisne, on retrouve Johanna Chabas. Bonjour Johanna Chabas.
Bonjour.
Le reporter bonjour. RMC. Quel temps tiens il fait là en ce moment dans l'Aisne?
Ah bah alors il a plu un peu de la matinée, puis après il a refait beau, vraiment on sait plus là.
Bon, variable on va dire, un peu comme la situation politique actuelle. Johanna, vous êtes avec qui?
Moi, je suis avec Jérémy, qui est super sympa, qui est un commerçant du centre-ville de Laon. Il a 50 ans, 3 enfants. On est dans sa boutique. On trouve un peu de tout, tout ce qui est lié au Moyen-Âge, parce que c'est sa passion. Donc,
puis c'est une ville médiévale, Laon.
Tout à fait, avec des pavés, une très belle cathédrale. Et donc, ici, on va trouver de l'alimentaire avec des produits du coin, donc du saucisson, du vin, mais aussi de l'ébénisterie, parce que c'est sa passion à la base. Et donc, ce que m'expliquait Jérémy, c'est qu'il a dû se diversifier, parce que parfois, la vie en tant que commerçant, elle est un peu compliquée. C'est une galère de pouvoir se verser un salaire à cause de toutes les charges qui sont à payer.
Bah justement. Justement. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi. Tiens Jérémy, ce que disait Johanna, c'est intéressant. Bon, on comprend que les affaires, c'est pas toujours simple en ce moment. Il y a plein de raisons, hein. L'inflation notamment, les coûts d'énergie et tout. Mais ces législatives, est-ce qu'elles vous donnent de l'espoir?
Absolument pas. Non, il n'y a aucun espoir. Ah bon, après, on a de nouveaux candidats qui se présentent, comme le RN. Bon, on sait leur parcours, on sait d'où ils viennent. Mais on sait aussi où vient le parcours du LFI. On sait où vient le parcours des communistes. On sait aussi le bilan de tous les vieux dinosaures qu'ils ont gouverné depuis 40 ans, qui ont fait une diète abyssale et qui ont détruit le pays. Donc à voir, où est-ce qu'on va, on ne sait pas, en fait.
Là, vous êtes perdu en ce moment.
Mais je pense que beaucoup de gens sont perdus. Et c'est pour ça que le RN aujourd'hui passe. Et c'est surtout pour ça que les gens votent, parce que c'est le seul qui n'a pas été testé. C'est le seul qui, pour l'instant, ne se fait pas des alliances avec des NPA, avec des LFI, avec des gens qui sont des extrémistes, dans leurs actions en tout cas, pour les fichiers S, etc., les gens qui lancent des cocktails Molotov sur la police et autres. Donc tous ces gens-là, pour l'instant, à part eux, on voit pas grand monde.
Vous qui discutez avec des habitants de Laon, parce que bon, je suis du Nord, je connais Laon, hein, c'est une très jolie ville d'ailleurs. Mais on va pas se cacher que, notamment dans le département de l'Aisne, il y a de grosses difficultés sociales, beaucoup de chômage, beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Jérémy, lorsque vous discutez avec des habitants de Laon, des amis, des collègues, est-ce que on a ce discours? De toute façon, enfin, je l'ai cru l'entendre, hein, de toute façon, on a tout essayé, ils sont tous nuls, pour résumer, et bah, ça on n'a pas essayé, alors tant qu'à faire, on y va.
Non, pas forcément. On n'est pas dans ce sens-là. Par exemple, vous voyez, moi, j'ai pas voté RN. J'ai voté pour un gogol du coin, pardon, excusez-moi du terme, que je trouve stupide. Mais pour le coup,
un original, on va dire plutôt.
Un original. Je sais qu'il fera aucune voix. Ça m'a amusé. Je préfère mettre un bulletin dans son urne plutôt que mettre un bulletin blanc qui va être donné au RN. Donc voilà. Donc j'ai mis j'ai voté pour n'importe qui plutôt que. Voilà, et je pense que vaut mieux faire ça que voter pour des gens qui ont déjà fait leur test et qui sont plantés totalement sur les 7 dernières années, voire les 40 dernières années.
Merci Jérémy. Une dernière question à Johanna. Johanna, toi qui es depuis quelques heures maintenant à Laon, dans l'Aisne, c'est quoi le sentiment général des habitants, même si c'est difficile de savoir, mais l'ambiance?
Bah, c'est l'ambiance et surtout, on peut voir une ville où il y a beaucoup de commerces qui ont fermé, des boutiques qui sont à vendre, ou alors la devanture est complètement bouchée. Enfin, ouais. Il y a cette ambiance un petit peu de morosité, on peut dire. Je crois que c'est le mot qu'avait employé Jérémy hier.
Et guerre d'espoir dans le cadre de ces législatives, on a compris.
Bah, c'est ça, c'est un peu un geste de contestation avant tout, et puis de toute façon, ne plus trop de confiance avec la politique. Quoi.
Merci beaucoup, Johanna Chabas, reporter RMC. Merci à Jérémy. On était dans l'Aisne à Lens et on continue. Et bonne journée et on continuera notre tour tout à l'heure vers 13h30. On sera en Loire-Atlantique. Ce sont les Français en direct. Dans un instant, on n'arrête pas le progrès avec Anthony Morel. Avis aux jeunes parents, comprendre et interpréter les pleurs des bébés. C'est désormais possible. Ah ouais. C'est tout de suite sur RMC et RMC Story. À tout de suite. Ça t'intéresse, Fred.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Rémi Barret.
Anthony Morel nous a rejoint, c'est Estelle Midi, comme tous les jours, à midi, 14h sur RMC, RMC Story.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Tu es en train de me montrer des choses. Il y a des choses qui ont changé dans ton texte.
Mais non, il y a rien qui change.
Calme-toi. Calme-toi, Anthony.
Tout va bien.
Salut, Anthony.
Salut.
On va parler des pleurs de bébé, c'est bien ça?
Mais oui, c'est
bon,
ça.
Jusque-là, c'est bon.
Jusque-là, t'as tout bon.
J'ai les bonnes fiches. Tu vas tenter en tout cas de faciliter la vie des jeunes parents, toi, ou en tout cas la technologie.
Ouais,
tu as plutôt quelques, la technologie. Innovations à nous présenter.
Absolument, et notamment un truc assez fou, c'est un traducteur de pleurs de bébé. Voilà.
Fallait y penser.
Alors ouais. C'est une start-up que j'ai rencontrée il y a quelques mois, qui est assez incroyable. Ils ont mis au point une application, alors qui se base sur l'intelligence artificielle. Ça s'appelle Acapella. Et en gros, alors quand ils m'ont dit ça, moi franchement j'étais un peu incrédule, un peu sceptique. Ouais. Maintenant je suis un petit peu plus convaincu parce qu'il y a eu pas mal d'études en fait sur l'analyse des pleurs de bébé. Et visiblement le spectre sonore varie en fonction des besoins du nourrisson.
Ah, alors là, je sais quoi ça.
J'en sais rien. Ouais, alors c'est ça. Alors il y a peut-être caca culotte. Il peut y avoir faim, il peut avoir mal au ventre. Enfin, il y a plein de choses en fait. Et donc en fait l'application, on lui a appris, elle a analysé des milliers et des milliers de pleurs de bébés différents. Elle est capable d'interpréter ces variations-là. Et donc, tu vas shazamer, en fait, avec le téléphone, les pleurs du bébé, et ça va te donner leur signification avec un taux de précision. Alors, c'est les chiffres qui sont donnés par cette start-up de 95%, donc c'est assez énorme. Par rapport à des parents, c'est 30%. Les parents, en général, ils sont un petit peu désemparés, ils tentent, voilà, ils essayent de faire des déductions, mais ils savent pas forcément, c'est un peu compliqué. Donc là, l'application peut les aider. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, alors là, je sais pas ce que ça veut dire non plus,
J'adore la chronique d'Anthony Morel, moi j'ai compris ça.
Ah oui, c'est ça, ouais. Probablement. Ouais. L'application est seulement disponible aux États-Unis pour l'instant. Bon. Elle va arriver en France, on espère. Mais elle pourrait aussi servir à détecter d'autres choses dans les sons et dans la respiration des nouveau-nés. Donc, par exemple, des problèmes respiratoires ou un certain nombre de maladies. Donc, c'est au-delà du côté gadget anecdotique, tu vois.
Déjà que les parents sont généralement inquiets, là, tu vas les paniquer complètement.
C'est un peu ça. Non, mais c'est aussi le truc, quoi. C'est que t'as tout un business qui est en train de se mettre en place, qu'on appelle la baby tech. Il y a énormément, énormément de choses. Et j'aurai le temps de vous en reparler. Il y a plein de nouveautés. Notamment des poussettes autonomes qui se conduisent comme les voitures autonomes. Ça, je vous en parlerai une autre fois.
Des poussettes autonomes.
Mais oui, bien sûr.
Tu mets le bébé dans la poussette et
Zibro, tu normalement, tu te balades à côté
quand même. Technologie encore, nous, mais attention, on ne prend pas ton boulot, mais on va parler voiture électrique. Ouais. Bon, on a des premiers retours d'expérience, on va dire, qui sont assez mitigés.
C'est vrai?
Bah, notamment sur les pannes,
ouais,
notamment sur le coût, on le savait.
L'autonomie, toujours.
Et sur la pollution aussi, c'est peut-être pas aussi propre pour
regarder le cycle de vie total du produit.
On va en parler. Ouais. La voiture électrique est-elle une aberration? Bah, tu sais, on fait dans la dentelle, hein, tu le sais. Vous nous appelez au 32-16, c'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 14h.
Estelle Midi.